des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Seille en votre compagnie pour vous présenter une fois de plus cette semaine l'émission « Des livres plein les oreilles » et bien sûr vous écoutez la radio de Canal M ou peut-être c'est KVL où je sais que l'émission est également retransmise. Donc beaucoup, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Cette émission, je vous le rappelle, est consacrée aux livres audio et aujourd'hui je vais vous proposer des nouveautés en audio adaptées, donc qui s'adressent également à nos amis non-voyants ou partiellement voyants via le SQLA ou encore CAEB. Et je vais aussi aborder des livres commerciaux qu'on peut retrouver absolument partout en passant par le net pour s'en mettre plein les oreilles. Alors il sera question notamment d'Éric-Emmanuel Schmitt, de Daniela Ferrière et de Francine Ruel qui a bouclé la boucle de sa série sur le bonheur avec Le bonheur est passé par ici. En seconde partie, on va retrouver Marie Gray et Yannick Olassa. Et bien sûr, vous pouvez compter sur moi pour diffuser de nombreux extraits de livres audio dont il sera question aujourd'hui, car faut-il le rappeler, cette émission-là est bel et bien, oui, la seule qui se consacre aux livres sonores. Pour commencer, tiens, que diriez-vous d'une petite minute de Chopin ?
Je n'ai qu'une minute, une petite minute, je n'ai rien qu'une minute, une petite minute, une toute petite minute pour vous chanter une valse d'une minute qui ne dure pas plus d'une minute. Oui, je peux la chanter, l'articuler sans faire une faute et sans oublier une seule note. Ce n'est pas si facile que ça, mais il faut que je vous explique. J'ai parié l'autre soir devant tous mes amis que rien n'était plus facile et quand j'ai réussi, ils m'ont offert une bouteille de whisky et depuis je bois pour rien dans toutes les surprises parties. Je leur fais la surprise et ils font le parti. Beaucoup Chopin, mais j'aime encore mieux le whisky. Si Chopin avait su ça, je suis sûre qu'il ne l'aurait jamais écrit. Je trouve ça vraiment curieux. Et quelquefois, c'est vraiment très ennuyeux quand je fais bouillir mes œufs. Trois fois de suite, je dois la chanter, mon Dieu. Je n'ai plus que 30 secondes, 30 petites secondes, je n'ai plus que 30 secondes, 30 petites secondes, je n'ai plus que la moitié d'une minute pour vous chanter cette valse d'une minute qui ne dure pas plus qu'une minute. Quelquefois je me demande si je suis une femme ou si je suis une cocotte minute. Justement mon mari me disait l'autre jour, j'en ai vraiment assez, tu t'arranges toujours pour faire ce que tu fais à la dernière minute. Mais moi je lui ai dit alors la part d'en minute. C'est de trouver quelqu'un qui, comme moi, peut tout faire dans une minute.
Alors pourquoi Monique Lérac et cette valse minute signée Chopin pour la musique ? Eh bien parce que justement, il sera question de Chopin avec ce livre d'Éric-Emmanuel Schmitt, Madame Pilinska et le secret de Chopin. Monsieur Schmitt qui écrit « Je cherchais un professeur qui m'aiderait à résoudre le cas Chopin. Il m'obsédait, sa lumière me manquait, sa paix, sa tendresse, la trace qu'il m'avait laissée. Un après-midi printanier à l'occasion de mes 9 ans oscillait entre l'empreinte et la blessure. Quoique jeune, j'en éprouvais de la nostalgie, je devais lui soutirer son secret. » Et voilà notre Éric-Emmanuel Schmitt qui part à la découverte du secret de la musique de Chopin sous le regard tyrannique de cette professeure, cette vieille polonaise, Madame Pilinska. Chopin qui écrit beaucoup sur le silence, dit Madame Pilinska. Sa musique en sort et y retourne, elle en est même cousue. Si vous ne savez pas savourer le silence, vous n'apprécierez pas sa musique. La musique du silence est vraiment essentielle de ce qu'elle lui enseignera, même au niveau de l'écriture d'ailleurs. Elle lui dira à Éric-Emmanuel Schmitt, Madame Pilinska, « Écris, écris toujours en pensant à ce que t'as appris Chopin. Écris piano fermé, ne harangue pas les foules, ne parle qu'à moi, qu'à lui. » Qu'à elle, demeure dans l'intime, ne dépasse pas le cercle d'amis. Un créateur ne compose pas pour la masse, il s'adresse à un individu. Chopin reste une solitude qui devise avec une autre solitude. Imite-le, n'écris pas en faisant du bruit, s'il te plaît, plutôt en faisant du silence. Concentre celui que tu vises, invite-le à rentrer dans la nuance. Les plus beaux sons d'un texte ne sont pas les plus puissants, mais les plus doux.
Thank you. Madame Pilinska et le secret de Chopin, d'Éric Emmanuel Schmitt, lu par l'auteur, accompagné au piano par Nicolas Stavy. Indifférente à mon hilarité, Aimée souleva le couvercle de bois avec délicatesse, comme si elle ouvrait la cage d'un fauve, parcourut les touches des yeux, les effleura de ses doigts fins, qu'elle retira soudain quand un feulement traversa la pièce. Le félin se cabrait, rétif, menaçant. Alors, patiemment, tant Aimée réitéra ses précautions d'approche. De la main gauche, elle flatta le clavier. L'animal émit un son ouaté. Cas unique, il ne trépignait pas, il montrait presque de l'amabilité. Aimée égrena un arpège. Réceptif, le rusto ronronna. Il cédait, elle l'apprivoisait. Satisfaite, Aimée suspendit son geste, toisa le tigre qu'elle avait métamorphosé en chaton, s'assit sur le tabouret et, sûr d'elle autant que de la bête, commença à jouer. Au milieu du salon ensoleillé, un nouveau monde avait surgi. Un ailleurs lumineux, flottant en nappe, paisible, secret, ondoyant, qui nous figeait et nous rendait attentifs. À quoi ? Je l'ignorais. Un événement extraordinaire venait de se dérouler. L'efflorescence d'un univers parallèle, l'épiphanie d'une manière d'exister différente, dense et éthérée, riche et volatile, frêle et forte, laquelle, tout en se donnant, conservait la profondeur d'un mystère. Dans le silence chargé de notre éblouissement, tant Aimée contempla le clavier, lui sourit en guise de remerciement, puis releva son visage vers nous, ses paupières retenant mal ses larmes. Ma sœur, déconfite, fixait d'un œil torve le Schillmeyer qui ne lui avait jamais fait l'honneur de sonner ainsi. Mes parents se regardaient, estomaqués que ce bahut sombre et ventripotent côtoyé durant un siècle dispensa de tels charmes. Quant à moi, je frictionnais mes avant-bras dont les poils s'étaient redressés et demandais à tant Aimée « Qu'est-ce que c'était ?» Chopin, évidemment. Thank you.
C'est beau, hein? Ce moment de, j'allais dire de chopinerie, pardonnez-moi, mais c'est vraiment pas, voilà, c'est le mot qui m'est venu, mais en tout cas ce moment de silence mélangé à la musique et aux mots d'Éric Emmanuel Schmitt, ben vous étiez offert par Clotilde Seille au micro de Canal M. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Des livres plein les oreilles et que nous écoutions un extrait de ce livre lu par son auteur Éric Emmanuel Schmitt, livre qui s'appelle Madame Pilinska et le secret de Chopin, que vous pouvez maintenant vous procurer en audio à peu près sur tous les sites qui proposent ce genre de livre. On va passer du domaine d'Éric Emmanuel Schmitt et de Chopin à celui de Dany Laferrière avec Tout ce qu'on ne dira pas, Mongo, un livre qui est une production de Radio-Canada. Et c'est un livre. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser Dany Laferrière le présenter lui-même. Juste de rappeler que Dany Laferrière est arrivé à Montréal en 1976. L'Académie française est encore très loin de ce jeune homme qui découvre ce nouveau pays. Et quelques dizaines d'années plus tard, son chemin, ou plus exactement sur la rue Saint-Denis, eh bien, il croise celui d'un jeune émigré, un peu paumé, mais déterminé à comprendre ce qu'est ce pays, le Québec, et qui sont les gens qui le peuplent. Pour le reste, Dany Laferrière nous présente ce livre et on pourra entendre les voix de Marcel Sabourin dans le rôle de Dany Laferrière et de Michel Mpambara dans celui de Mongo.
Ce livre est important pour moi parce qu'il a été écrit après mon arrivée il y a 40 ans au Québec. Je voulais m'asseoir calmement pour lui dire au Québec ce que je pense de lui. Dans une forme où alterne critique et éloge, amour ou inconfort, mais sans jamais oublier cette idée d'une longue lettre d'amour au Québec.
La rencontre. Je descends la rue Saint-Denis vers le fleuve. On m'arrête au coin de la rue Chérier. C'est un jeune homme, au début de la vingtaine.
Je m'appelle Mongo. J'arrive tout juste d'Afrique.
C'est grand, l'Afrique.
Ah, vous connaissez? Je viens du Cameroun. En fait, j'ai pris le nom d'un écrivain camerounais pour qui j'ai beaucoup de respect.
Mongo Betty.
Vous le connaissez aussi?
Oui, j'aime bien sa colère. Il ne prend rien pour acquis.
La plupart des gens prennent l'Afrique pour un pays où l'on ne fait qu'attendre la mort. Je suis étonné par un tel manque de curiosité.
Et moi, je suis étonné par la qualité de sa langue et son regard de tigre prêt à bondir sur l'ennemi de chasse. Ne vous méprenez pas. Il y a ici aussi des Montréalais curieux et passionnés. Ce sont des gens qui ne se dévoilent pas facilement.
Je ne suis ici que depuis le début de l'été.
C'est très trompeur. En hiver, on n'imagine pas qu'il puisse faire aussi chaud qu'aujourd'hui. Et en été, c'est difficile de concevoir l'hiver.
C'est si différent que ça?
Oui, il faut surtout éviter de parler de saison, sinon on va rater tout le reste. Mais qu'est-ce que vous faites?
Des petits boulots. Les premières semaines, je vivais avec mon oncle. Il est plombier, je l'aidais un peu. Dès qu'il rentre à la maison, il s'installe devant la télé avec ses amis. Il ne regarde pas les nouvelles, juste des vidéos de famille où ils analysent chaque détail. Je n'ai pas traversé l'océan pour me baigner dans la culture que je viens à peine de quitter. J'ai trouvé par hasard une chambre lumineuse sur la rue Saint-Denis, au nord de Mont-Royal. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes ici?
Depuis 40 ans.
Et? Excusez-moi. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on puisse passer 40 ans hors de son pays.
Ça n'arrive pas d'un coup non plus.
Comme je suis quelqu'un de pas compliqué, j'écris des textes sur ce que je vois. Alors assis dans un café, je regarde la vie autour de moi. Derrière la vitre, il fait bien jour et il y a du vent dans les arbres. Je regarde le speed au pied des tours et mes toasts au sirop d'érable. Je me suis levé bien avant 7 heures, c'est un exploit temporaire. Habituellement, ça me ferait trop peur, mais je suis en décalage horaire. J'apprécie mon nouveau réel, j'ai fait voyager mon moral. Je sens que la journée sera belle, me revoici à Montréal. On m'a dit qu'ici l'hiver est dur, alors je suis venu au printemps. 6 mois dans le froid c'est la torture, si je peux éviter j'aime autant. Mais ce matin le ciel est tout bleu et je sens que mon cœur est tout blanc. Je vais connaître la ville un peu mieux, je veux voir Montréal en grand. J'ai plutôt un bon a priori parce que les gens sont accueillants. Il y a plus de sourires qu'à Paris, et puis surtout il y a leur accent. Mis à part quelques mots désuets, ils parlent le même langage que nous. Mais pour l'accent, je sais leur secret. Ils ont trop de souplesse dans les joues. Niveau architecture, Montréal, c'est un peu n'importe quoi. Il y a du vieux, du neuf, des clochers, des gratte-ciel qui se côtoient. Mais j'aime cette incohérence et l'influence de tous ces styles. Je me sens bien dans ces différences, je suis un enfant de toutes les villes. Il y a plein de buildings sévères, il y a des grosses voitures qui klaxonnent. Et des taxis un peu partout, c'est l'influence anglo-saxonne. Il y a des vitraux dans les églises et des pavés dans les ruelles. Quelques traces indélébiles de l'influence européenne. Il y a des grands centres commerciaux et des rues droites qui forment des blocs. Pas de doute là-dessus, Montréal est la petite sœur de New York. Il y a des petits restos en terrasse, un quartier latin et des crêperies. Pas de doute là-dedans, Montréal est la cousine de Paris. Dans les lumières de l'après-midi, j'ai chillé sur Sainte-Catherine. Et là, j'ai magasiné, pas question de faire du shopping. Moi j'aime bien la rue Saint-Denis, c'est peut-être pas juste un hasard. Et sous le plateau des Bobos, j'ai pris le soleil à la place des Arts. J'ai bien aimé le vieux port et ses fantômes industriels. Et bizarrement, le quartier des musées, je le visiterai la fois prochaine. Je prétends pas connaître la ville, je suis qu'un touriste plein d'amitié. Mais j'aime ce lieu, son air et ses visages du monde entier. Je me suis arrêté pour observer la nuit tomber sur Montréal. Et le dernier clin d'œil du soleil changeait les couleurs du Mont-Royal. Les phares des voitures ont rempli les interminables avenues. Je me suis senti serein, un peu chez moi, un peu perdu. Je me suis réfugié dans un Starbucks afin de finir de gratter mon petit hommage sur cette ville où je me suis senti adopté. Sur ces habitants tellement ouverts qui parlent un drôle de patois et qui m'ont offert leur écoute à 6000 bornes de chez moi. Je reviendrai à Montréal car j'ai eu ben du fun. Cette ville où les chums ont des blondes et où les blondes ont des chums. J'ai pas encore vu grand chose, je veux découvrir et je sais pourquoi. Je reviendrai à Montréal. Voir les cousins québécois.
Grand Corps Malade, sur les ondes de Canal M, à l'émission Des livres plein les oreilles, Grand Corps Malade qui faisait suite au texte que je vous ai présenté, au livre que je vous ai présenté plutôt, de Dany Laferrière, dont je vous rappelle le nom, si je me remets sur la bonne page, voilà, Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, c'était lu pour Radio-Canada par Marcel Sambourin, je vais le dire, et Michel Mpambara. Bon, maintenant, nous voici dans l'univers de Francine Ruelle. Lire du Francine Ruelle, c'est comme se plonger dans une eau pure. C'est terriblement une eau, mais une eau terriblement sécurisante, enveloppante, douce. On se laisse flotter, comme ça, au fil des pages, comme au fil de l'eau, finalement. Et les premières pages, comme le reste du livre que je vous présente maintenant, qui s'appelle « Le bonheur est passé par ici », eh bien, ces premières pages sont savoureuses. On retrouve avec délectation cette mixité québéco-italienne, les parfums, les accents de ces deux mondes qui gravitent autour d'Olivia. Olivia qui, elle, prend 70 ans et ne désirait qu'une seule chose, que sa famille ne lui souhaite pas, ne lui rappelle pas cet anniversaire. Alors c'est le dernier chapitre, le dernier tome à cette série qui avait commencé par « Bonheur, es-tu là ?», donc une série sur le bonheur dont je vous lis maintenant un extrait. « Je ne veux pas les avoir, ces 70 ans. Surtout, je ne veux pas les célébrer. Je ne veux pas de ce cadeau empoisonné. Le présent a beau être enveloppé de bons sentiments, tu te rends compte de tout le chemin que tu as fait, c'est formidable, tu es encore en bonne santé. Waouh, bien conservé pour ton âge. La vie te réserve encore de belles années. » Bullshit. Je n'en veux pas de ces 70 ans. Est-ce que c'est clair? J'en ai déjà des années, inutile d'en rajouter. Je ne demande pas non plus à reculer mon kilométrage et à me retrouver dans la trentaine. La soixantaine me suffirait amplement. Ce bel âge, gardez-le. Ils sont tout neufs, ces 70 ans. Ils ne sont même pas déballés, jamais utilisés. Je vous en fais cadeau. Vous hésitez? C'est un âge formidable à ce qu'on dit. Ces 70 ans vont changer votre vie. Personne n'est intéressé, vraiment. Si au moins ce passage à l'âge ingrat s'était fait en catimini, passé sous silence, l'âge vénérable. Mais non. Il a fallu que mes amis et les membres de ma famille se présentent chez moi et qu'ils chantent à tue-tête, ravis de souligner avec moi cet anniversaire de malheur. Dans quelques instants, ils vont m'offrir des cadeaux adaptés à mon âge, qu'ils auront pris le temps de choisir. Un amplificateur pour la télé ou encore un téléphone avec de très grosses touches. Un bracelet SOS au cas où je tomberais. Non, je l'ai. Ils se sont cotisés pour m'offrir une baignoire à porte, de modèle Liberty, facile d'accès pour la vieille chose que je suis devenue. Et pourquoi pas des chaussures thérapeutiques, aux jolis motifs ou une pince de préhension pour ramasser tout ce que j'échappe. Mieux, tiens, un chausse-pied télescopique, un enfile-bas de contention et son retire-bas, j'en rêvais. Un coupe comprimé, une énorme loupe, des couches-culottes, tant qu'à y être. Et ne vous attendez pas à ce que je m'exclame devant votre gâteau transformé en porc-épic à cause du trop grand nombre de bougies allumées. Bernard Pivot le disait si bien. Vieillir, c'est chiant. Parce qu'on ne sait pas quand ça a commencé et l'on sait encore moins quand ça finira. J'ai beau sourire, je me sens tout à coup vieille. Vieille. À compter d'aujourd'hui, je suis une septuagénaire. Au secours!
Mourir en rougissant, suivant la guerre qu'il fait, du fait des Allemands à cause des Anglais. Mourir baiser intègre entre les seins d'une grosse, contre les os d'une maigre dans un cul de basse fosse. Mourir de frissonner, mourir de se dissoudre, de se racrapoter, mourir de se découdre, ou terminer sa course la nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire, mais vieillir, oh, pour vieillir. Mourir, mourir de rire, c'est possiblement vrai. D'ailleurs, la preuve en est qu'il n'ose plus trop rire. Mourir de faire le pitre pour dérider le désert. Mourir face au cancer par arrêt de l'arbitre. Mourir sous le manteau, tellement anonyme, tellement incognito, que meurt un synonyme, ou terminer sa course la nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, vieillir. Mourir couvert d'honneur et ruisselant d'argent, asphyxié sous les fleurs, mourir en monument, mourir au bout d'une blonde, là où rien ne se passe, où le temps nous dépasse, où le lit tombant tombe, mourir insignifiant au fond d'une tisane, entre un médicament et un fruit qui se fane, ou terminer sa course la nuit de ses 1000 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire, mais vieillir, oh, vieillir.
Oui, mourir, cela n'est rien. Vieillir, la belle affaire. Tout ça pour faire écho au titre de Francine Ruelle, Le bonheur est passé par ici. Francine Ruelle, qui mine de rien, a publié déjà 15 ouvrages, dont cette saga du bonheur, qui commençait avec « Et si c'était ça le bonheur ?» Ensuite, il y a eu « Maudit que le bonheur coûte cher » et enfin « Bonheur, es-tu là ?» Bien évidemment, ce sont des titres que vous pouvez retrouver absolument gratuitement via le SQLA si vous désirez vous mettre Francine Ruelle entre les oreilles, et je trouve que ce serait une maudite bonne idée. Alors vous écoutez Elle délivre plein les oreilles, c'est Clotilde Seil qui vous accompagne et qui vous retrouve dans quelques minutes avec notamment Marie Gray et Yannick Olassa ainsi que d'autres extraits de livres à vous mettre entre les oreilles. Plein les oreilles, seconde partie. Alors, en seconde partie, je vais accueillir quelqu'un qui est déjà venu ici il y a quelques semaines, mais c'était pour parler d'un tellement autre sujet, d'un bouquin tellement différent de ce dont elle va nous parler aujourd'hui que je me suis dit, allez, je la rappelle, Marie Gray, bonjour. Marie Gray, avant qu'on commence cette entrevue au sujet de ce livre qui s'appelle « Il était une voix », qui est maintenant enregistré, qui fait maintenant partie des livres sonores produits par Vues et Voix, je voudrais vous offrir une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça s'appelle « Voilà la voix ». Et c'est chanté par un groupe qui s'appelle Chanson plus Bifluoré.
Je connais pas, yay!
Alors, écoutez bien, écoutez bien.
Pour baritonner ou sopraniser, faut la travailler, mais il ne faut pas la rayer, la perfectionner, la tonifier, la placer, l'accorder. Faut la surveiller, la déverrouiller, la carillonner, l'harmoniser, la déclamer, ne pas la sous-estimer, la déprimer, la malmener. Surtout ne pas la turlupiner, encore moins la démantibuler, surtout ne pas la raffariner, encore moins la sarcositionner. Faut la gazouiller, la chocolater, la désenrhumer, la coquiner, l'ensoleiller, la porter sans l'épuiser, la laisser nous chanter. La voilà, la voilà, la voilà, 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 la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, voilà, la 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 voix, voilà, la voix. On peut la blesser, la voix s'enrouer le jour du concert, elle veut tout à coup nous lâcher. Faut alors opérer car on peut la perdre à jamais, la rééduquer prendra des jours, des mois, des années, mais il faudra bien patienter.
Comme elle est fragilisée, elle a besoin d'être assurée, surtout ne pas la cortisonner, encore moins la cryogéniser, surtout ne pas la fioniser, ni non plus la copéiser, il est dangereux de la politiser.
Faut la préserver, la réconforter, faut l'énergiser, la déstresser, la yogiser, elle aime être câline. Faut la mieliser, la propolisser, la dorloter, ne jamais la forcer, faut tout simplement la libérer. Surtout ne pas la désaccorder, encore moins la monopoliser, surtout ne pas l'obispoiser, ni même la star académiste. Faut la pimenter, la libertiner, l'improviser, mais par-dessus tout la musicaliser. La voilà, 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 la voilà.
Pour baritonner ou sopraniser, faut la travailler, mais il ne faut pas la rayer. La perfectionner, la tonifier, la placer, l'accorder.
Faut la surveiller, la déverrouiller, la carillonner, harmoniser, la clamer. Ne pas la sous-estimer, la déprimer, la malmener. Surtout ne pas la turbiner, encore moins la démantibuler. Surtout ne pas la raffariner, encore moins la sarcositionner.
Je te passe la salade.
Tu m'envoies la rhubarbe.
Faut la gazouiller, la chocolater, la désenrhumer, la coquiner, la soulier, la porter sans l'épuiser, la laisser nous chanter. La voilà, 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 voilà, la voilà, voilà, la voix, voilà la voix, voilà la voix, voilà la voix, 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 la vo
la voix.
Ah, c'est très drôle. Ils ont vraiment un plaisir. Où enregistrer ça?
J'ai failli, chère Marie, demander à Maurice, notre technicien aujourd'hui, d'ouvrir le micro tellement vous avez ri en entendant ça. Bon, évidemment, le lien était un peu facile.
Ben oui, non,
votre livre s'appelle « Il était une voix », mais cela dit, l'ambiance du bouquin n'a rien à voir avec cette chanson-là. Nous sommes... D'abord, bon, racontez-nous en quelques mots, quelle est l'histoire, quels sont les personnages?
Alors, il y a deux personnages principaux. Il y a Annie, qui est un petit peu celle que j'aurais pu devenir puisque j'étais chanteuse autrefois et j'ai abandonné après plusieurs années, plusieurs déceptions. Je m'en venais aigrie, je devenais un peu désabusée de tout ça. Et si j'avais continué, je pense que je serais devenue Annie. Donc, Annie est à l'aube de la cinquantaine. Elle regarde un petit peu en arrière sur une carrière qui n'a jamais vraiment décollé. Elle a eu un succès, mais ça n'a pas été suffisant pour qu'elle puisse continuer là-dedans. Et il y a Jade, à l'opposé, qui est une jeune chanteuse débutante qui, elle, aussi a été un peu celle que j'ai été. Oui. Celle qui connaît tout et qui est meilleure que tout le monde et qui pense que tout lui est dû. Et donc, les deux se confrontent. Et au lieu de profiter de l'une de l'expérience de l'autre et de l'énergie et vice-versa, ben elles se confrontent et ça donne lieu à plusieurs... petit drame, je dirais. Une remise en question.
Bon, là, vous nous l'avez dit parce que je me demandais pourquoi ce livre, dans le milieu de la chanson et de la vie artistique, entre guillemets, populaire, c'est donc parce que, très rapidement, mais vous avez fait une carrière à un moment donné que vous avez vous-même donc décidé d'arrêter, Marie Gray.
Oui, parce que, pour toutes sortes de raisons, évidemment, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Je voulais des enfants et tout, on se questionne beaucoup. Mais c'est pas une industrie que je trouve qui est saine. Et je voulais en parler de ça aussi parce qu'on s'imagine que tout ça, c'est très beau, c'est scintillant, mais il y a les dessous qui sont un petit peu moins jolis.
Vous en parlez presque, je dirais, comme d'un milieu inhumain dans le sens propre du terme, c'est-à-dire en dehors même de ce que l'humain devrait être, si j'en juge notamment par l'extrait qu'on va écouter ensemble un petit peu plus tard, mais... c'est vrai.
Ben, ça l'est un peu dans le sens où on est vraiment déconnecté de la vie réelle quand on est dans ce milieu-là. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport d'impôt? Qu'est-ce que c'est que travailler de 9h à 5h? On est complètement dans un autre univers. Et je trouve que ça nous déconnecte vraiment de ce qui est la vraie vie, de ce que sont nos buts dans la vraie vie, d'avoir des enfants, d'avoir une famille ou autre chose, ou la gloire qui est totalement artificielle et tellement éphémère souvent aussi. Donc, on perd... Je trouve qu'on perd vraiment beaucoup de ce qui est réel.
Je pense à Marie May en ce moment parce que je trouve qu'elle, justement, la vie l'a rattrapée. Là, en ce moment, on en a parlé. Bon, après son divorce, tout ça, elle s'est coupée de son agente et elle le dit elle-même. Elle, tout d'un coup, elle a comme récupéré la vraie vie. Elle était dans son monde.
Oui, tout à fait.
De fées, là.
Oui, mais le monde de fées a un prix aussi. Non, et justement, on n'a plus de vie privée, on n'a plus de... Tout ce qu'on fait est exposé partout. La moindre faiblesse est examinée, décortiquée.
Un milieu d'égo.
Tellement, tellement. Mais ce n'est pas que négatif non plus.
Non.
C'est extraordinaire d'être sur une scène. Ben, puis de...
On s'entend.
Bien sûr.
Le fric aussi, bien sûr, qu'elle a dedans.
Ouais, ben ça, j'ai jamais vraiment goûté personnellement. Mais...
Non, mais il y a des enjeux, je veux dire.
Mais le fric que ça coûte.
C'est ça, bien sûr.
Tout à fait.
Et votre expérience de lectrice, c'est vous qui l'avez lu, celui-ci. Alors?
Quel plaisir incroyable. Quand j'étais plus jeune, je faisais du théâtre. Ça me manquait énormément. J'ai vraiment pu renouer avec tout ça. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire.
Est-ce que ça vous donne envie, Marie Gray, de renouer peut-être avec le théâtre? Et qui sait, peut-être avec la musique? Non?
Je vous dirais que j'ai tellement de projets d'écriture en ce moment que...
C'est vrai?
Oui.
Vous travaillez en ce moment même sur
oui,
des...
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu sur quoi? Ou
on change de sujet? C'est peut-être plus féministe, c'est très sur les femmes qui en ont marre d'être belle et de se taire, finalement. Je pense qu'il est temps que les femmes prennent leur place et répliquent au lieu de subir tout le temps. Et donc, c'est un petit peu ça, mais avec des personnages qui nous ressemblent de toutes les générations, parce que ça touche toutes les générations aussi.
Alors là, on va rester avec « Il était une voix » de Marie Gray, qui a maintenant été enregistrée, lue par l'auteur. Ça, on aime ça, hein, quand c'est la voix de l'auteur, elle aussi. C'est maintenant une production Vues et Voix que vous pouvez retrouver. Je vous redonne le lien tout de suite sur « Livre livre sonore au singulier .vuesetvoix.com. Et si je fais bien la liaison, c'est parce que vue est au pluriel. Voix, bien sûr, toujours avec un X. Donc, .com. Et on va entendre là. Alors, l'extrait qu'on entend, c'est une désillusion de la part d'un des deux personnages.
De Annie, probablement, oui.
D'Annie, qui va apprendre que finalement, on va lui préférer peut-être un plus jeune sur un projet. On est, je pense, dans le vif du sujet de à quel point ça peut être difficile, surtout que son partenaire, si j'ai cru comprendre, qui s'appelle David, c'est bien ça, participait à cette éventuelle future production. Et là, on va lui couper l'herbe sous le pied. Et c'est la voix de Marie-Gré que vous allez entendre. On entend très bien que vous avez été comédienne, Marie.
Merci.
Tu te souviens de Kyle, le neveu de Steve?
Oui, bien sûr, il a beaucoup de talent.
Oui, beaucoup. Justement, je dois te prévenir, Annie.
Mon estomac se noua d'appréhension. Je le dévisageai pour lui indiquer qu'il avait toute mon attention.
Me prévenir de quoi, Peter?
Eh bien, nous avons... En fait, Steve a décidé que...
Oh, je déteste devoir te dire ça.
Crash, Peter!
Eh bien, Steve croit que l'album a de meilleures chances de marcher si c'est Kyle qui le chante, au complet.
Non. Non, 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 non.
Vous pouvez pas faire ça, ce sont mes paroles. Les enregistrements sont terminés.
Il a déjà écrit des nouvelles paroles et, tu sais, remplacer la piste de voix, c'est facile.
J'étais bouche bée. Je n'arrivais tout simplement pas à le croire. Mais David... Ce projet n'existerait pas si c'était pas de lui ni de moi.
Je le sais, Annie. J'essayais de convaincre Steve de ne pas faire ça. Il m'a répondu que, justement, David n'est plus là.
Vous avez pas le droit!
L'indignation me fit presque crier cette dernière affirmation. Malheureusement, Annie, oui, nous l'avons. Légalement, du moins. Moralement, c'est une autre histoire et je trouve pas ça correct. Par contre, la paperasse que nous avions fait rédiger lorsqu'on a décidé d'investir stipulait bien que la décision nous revenait à nous deux, en cas de retrait ou de décès de l'une ou l'autre des parties.
Vous aviez prévu ce genre de détails?
Oh, les contrats! Marie-Gré, quand on est un ou une artiste, ça prend deux ou trois avocats pour essayer de comprendre tout ce qui est écrit entre les lignes.
Oui, et oui.
Et c'est tellement clair dans le bouquin, c'est ce que j'aime, moi, là, c'est que si vous voulez vous plonger dans cette ambiance dont vous ne voyez finalement que l'extérieur, que la, c'est vraiment le livre à lire. Il était une voix de Marie-Gré. Marie qui, en ce moment, donc, travaille sur d'autres projets, que vous viendrez nous lire aussi vous-même.
Ben, j'espère bien. On en parle.
Oui, oui. Bon, en attendant, Marie, ben, je voudrais vous remercier d'être venue.
Ben, merci à vous.
Ben, c'est normal. Il était une voix de Marie-Gré. Pour les personnes non-voyantes qui nous écoutent, ça s'écrit G-R-A-Y. Et bien sûr, je tiens à vous le rappeler, tous les livres qui sont maintenant en audio commerciaux sont tous, du moins ceux produits par Vues et Voix, se retrouvent tous, Marie, en version accessible gratuitement pour les personnes qui vivent avec une déficience visuelle via le SQLA ou le CAEB. Merci infiniment, Marie.
Merci à vous.
On se retrouve le plus rapidement
possible. Oui, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Le téléphone, la porte qui sonne, le stéréo contre la radio, le violoncelle dans la poubelle, rapport d'impôt et mal au dos, tempête de neige, c'est le manège où les charrues brassent dans les rues, que la manique prend la panique. Panne de courant et rage dedans. Comment veux-tu que mon refrain chante les parfums des fleurs des îles? Il pousse du grésil sur mon jardin. Fleurs de grésil, du Brésil, RCMP et sauce chili. Télé couleurs, télé douleurs, Noël disco, pauvre Django, panne de silence et panne d'enfance, piano fermé, corde fanée, fanée les roses et je n'arrose qu'une rosée de mots givrés. Comment veux-tu que mon refrain chante les parfums des fleurs des îles? Il pousse du grésil sur mon jardin. Salut Chaplin, salut Gershwin, salut Miron, salut Frisson, les décibels de ma ruelle ne me jouent plus vos chants perdus. Panne de silence et panne d'enfance, piano fermé, corde fanée, fanée les roses et je n'arrose une rosée de mots givrés. Comment veux-tu que mon refrain chante les parfums des fleurs des îles? Il pousse du grésil sur mon jardin.
Quelle jolie reprise de cette chanson de Sylvain Lelièvre par Christine Tassan et Les Imposteurs. C'était Fleur de Grésil sur les ondes de KLM avec Clotilde Seille. Et c'est l'émission Des livres plein les oreilles qui se poursuit avec Yannick Olassa. Bonjour Yannick.
Bonjour Clotilde.
Yannick, habituée maintenant de ces chroniques, liseuse invétérée, ancienne blogueuse, critique littéraire qui nous arrive toujours avec d'excellentes suggestions, soit nouvelles, soit peut-être des livres comme celui-ci, qui ont peut-être quelques années, mais moi je vous avouerai que j'étais complètement passée à côté, alors je suis ravie que vous nous en parliez.
Merveilleux, ça va être une occasion de vous parler de ce livre qui se nomme « Avenue des géants » de l'auteur français Marc Duguin.
Oui. Alors, Duguin, alors, D-U-G-A-I-N. De quoi s'agit-il?
Exactement. Écoutez, il s'est inspiré d'une histoire vraie pour écrire ce roman-là. Mm-hmm. Il s'est inspiré de l'histoire d'Edmund Kemper, qui est un tueur en série qui sévissait aux États-Unis dans les années 60 et 70. Oui. Alors, tout comme sa contrepartie réelle, le personnage du roman s'appelle Al Kenner. Il a 15 ans. Il est doté d'un quotient intellectuel supérieur à celui d'Einstein. Oh. Et en plus, il a une taille gigantesque. On parle de 2,20 m. Donc, ça donne à peu près 7 pieds.
Oh.
Énorme. Et d'ailleurs, comme je disais, c'est tout à fait comme sa contrepartie réelle. Alors, ce jeune garçon-là, c'est un enfant qui est troublé, castré par une mère qui lui inflige des mauvais traitements. Il est allé habiter chez ses grands-parents. Il est encore sous joug de sa grand-mère cette fois-ci. Mmh. Et bien, un bon jour, il décide plutôt que de tuer des lapins, de tuer sa grand-mère. Mmh. Et comme son grand-père est arrivé sur l'entrefaite, il a tué son grand-père pour lui éviter toute la douleur du deuil d'avoir perdu sa
histoire vraie, hein?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et à partir de ce moment-là, le jeune homme part. Et puis là, ben, il y a des gens qui vont dire c'est peut-être pas crédible, là, mais il va sillonner la Californie en voiture et en moto. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en 60-70 et que dans les petits bleds, ben, souvent, les jeunes garçons, les jeunes filles, bon, qu'on disait beaucoup plus tôt, là, sans nécessairement avoir le permis. Alors, il va faire un petit, ce qu'on appelle un petit joyride. Hein. Il va se promener, mais bon, il va décider de se livrer à la police.
OK.
Mais comme il a 15 ans, il ne fera pas de prison. Il va dans un institut psychiatrique pour criminels. Donc, il fait 5 ans là. Il finit par être libéré, jugé totalement sain. Et ben, quand il est libéré, il est perdu parce que là, il est libre. Il a 20 ans. C'est pas quoi faire de la liberté. Hein. En début de roman, on cite « être libre, c'est être coincé ». C'est Cioran qui a dit ça. Et en effet, lui, il se sent totalement coincé. Il essaie de s'ajuster à la société, mais ça ne fonctionne pas. Il essaie de réprimer ses pulsions, parce que là, il y a des pulsions meurtrières. Ça ne fonctionne pas. Et il va sillonner les routes. Il va même faire des victimes pendant qu'il sillonne les routes. Évidemment,
on imagine.
En série. Et il va même devenir profileur pour la police de Santa Cruz. Donc, il va lui dresser des portraits de tueurs potentiels. C'est une histoire qui est bien écrite. Hein? Et je veux spécifier qu'on ne va pas dans les détails scabreux, là, pas du tout.
Okay.
On est dans la tête de l'individu, mais c'est beaucoup plus sur son regard sur la société, sur les relations avec les gens, sur la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Il ne faut pas oublier qu'on est au moment là, de la guerre du Vietnam, du mouvement hippie. Hein, l'Amérique est en ébullition. Et ben, c'est un peu un regard que l'auteur lui-même va porter sur cette grande période-là là, des États-Unis.
Alors, ça s'appelle Avenue des Géants. C'est de Marc Duguin, D-U-G-A-I-N. Je suis allée trouver un petit extrait de ce livre-là qui, je vous l'ai avoué, que je n'ai pas lu, mais que je vais lire, ça c'est certain. Je vous ai demandé de me le situer. Vous m'avez dit que c'est le tout début du livre. Hein?
Oui, tout à fait. C'est le premier chapitre a quoi? 3 pages, 4 pages.
D'accord.
Alors, et c'est dans le premier chapitre, le livre commence comme ça.
Bon, et donc, il n'a pas encore assassiné ni sa grand-mère, ni son grand-père.
En fait, oui.
Ah, d'accord. C'est ça que je voulais savoir. C'est un flashback.
Oui, exactement. C'est comme à la toute fin.
OK.
Une fois qu'il est emprisonné, il a une personne, une femme qui vient le voir régulièrement et c'est un extrait de la conversation qu'il a avec elle.
Oui, très passionnant, où il est beaucoup question de littérature. On l'écoute, cet extrait. Oui.
Elle doit avoir du sang indien, pas du sang frais, du sang qui remonte au début du siècle où on leur a réglé leur compte. C'est un peu risqué pour eux, vous comprenez? Vous voulez dire comme critique littéraire? Ah non, là-dessus, ils se feront leur propre opinion. C'est plus de révéler qui vous êtes ou pas. Et s'ils ne disent pas qui vous êtes, on pourrait le leur reprocher un jour. En même temps, ils se disent qu'à révéler votre identité, ils pourraient faire un coup. Enfin, les médias, quoi. Il opine à contre-temps comme si la conversation ne l'intéressait déjà plus. Il a toujours agi ainsi. C'est une façon de prendre l'ascendant sur ses interlocuteurs. Il se ravise. J'en ai lu des critiques dans ma vie. Je ne vois pas ce que je pourrais leur envier. Je me suis avalé 3952 livres depuis le début des années 70. Une lecture dans le moindre détail, et ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Maintenant, est-ce que ça me donne le droit d'avoir une opinion sur la littérature? Je le crois. Ils m'ont dit qu'ils pensaient à vous plutôt comme critique de polar. Il s'efforce de ne pas paraître énervé pour ne pas l'effrayer, car elle s'effraie facilement. Ça flaire le bon coup. Vous leur direz que le polar ne m'intéresse pas. Mais pas du tout. Trop de conventions, de lieux communs, d'énigmes sans intérêt. Il reste un bon moment sans rien se dire. Chacun regardant ailleurs. Il n'y a rien pour poser ses yeux dans cette pièce, alors chacun balaye le mur opposé. Il en a déjà assez d'elle. Mais il se contrôle, ne veut pas qu'elle le ressente, elle n'y est pour rien. Soudain, ça fuse. Vous pouvez leur annoncer le chiffre, 3952 livres de 71 à aujourd'hui. Et si vous voulez les faire rire, dites-leur que je n'en avais lu qu'un seul entre ma naissance en 48 et 1971. Je l'ai lu trois fois. Devinez lequel. Elle répond, « La Bible ?»« Non, Crime et châtiment, un sacré bon livre, vraiment. Je ne crois pas qu'on en ait écrit de meilleur. »
Je précise que cette version, cher Yannick, est la version commerciale, celle qu'on peut acheter sur toutes les plateformes dignes de ce nom, mais que maintenant le livre a été enregistré et qu'il est gratuit via le SQLA en format audio. Ce ne sera peut-être pas la même voix, cette voix incroyable. Il s'appelle Bernard Métro, celui qui a lu cela. C'était en 2015 que c'est sorti. Là, moi, j'ai trouvé ça sur Audible, mais on peut trouver ça partout. Donc, Bernard Métro. Ah!
Quelle voix!
Quelle voix! Hein. Alors, cher Yannick, on va se laisser là-dessus. Je voudrais rappeler le titre du livre « Avenue des géants » de Marc Duguin, disponible en commercial ou en version gratuite. Yannick, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans quelques semaines.
À bientôt!
Merci, bonne fin de journée. Est-ce que vous êtes intéressé à savoir quel est le meilleur vendeur sur le site livresonore.vusezvoix.com? Eh bien, c'est « L'art de se réinventer » de Nicole Bordeloup. Et rien que pour le plaisir de réentendre cette belle voix.
Mais comment fait-on pour changer sa vie? Comment faire pour se libérer de ses habitudes, pour dépasser ses angoisses existentielles? Comment accéder à cette excitante aventure de se réinventer? Quel est le premier pas à faire pour y parvenir? Cette période de questionnement, bien qu'inconfortable, est essentielle. Se questionner sur le sens de sa vie, c'est un premier pas vers une transformation intérieure. Nous avons la capacité de nous réinventer sans avoir à tout chambarder autour de nous. Nous pouvons tous faire l'expérience d'une réinvention de nous-mêmes sans changer notre apparence physique, sans quitter notre emploi, notre maison, nos relations. Autrement dit, le point de départ, c'est soi-même. Si vous scrutez très attentivement le monde autour de vous, vous verrez que la vie se réinvente continuellement. Dans la nature, rien ne se répète. À chaque instant, tout est frais. Tout est nouveau. Chaque jour, la vie se transforme. Et chaque jour, elle nous fait la même invitation, celle de nous réinventer avec elle.
Voilà la voix de Nicole de Bordeleau, l'art de se réinventer pour se faire du bien, pour ressentir la vie au présent, pour balayer les peurs ou du moins savoir vivre avec. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, mes amis. Je voudrais aussi remercier Maurice Bolduc ainsi que Marie Gray et Yannick Olassa qui m'ont accompagné aujourd'hui. Vous écoutiez Des livres pleins les oreilles, animés et réalisés pour vous par Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine et de belles lectures. Salut.